Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Décryptage. On s'intéresse ce soir au Congo Hold-up, ce vaste scandale de détournement de fonds publics qui éclabousse Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo et plusieurs de ses proches. Les Congo Hold-up, c'est une enquête collaborative réalisée par 19 médias dont RFI, des médias associés au consortium européen EIC et par 5 ONG spécialisées. Cette enquête a été réalisée grâce à la fuite de 3,5 millions de documents bancaires. Elle documente de considérables détournements de fonds publics, 138 millions de dollars dérobés entre 2013 et 2018. Alors comment ces détournements massifs ont été rendus possibles? Quels sont finalement les rouages de ce pillage d'État? On en parle pendant 20 minutes avec Sonia Rollet, journaliste au service Afrique de RFI et spécialiste de la RDC. Bonsoir Sonia.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez donc participé à cette enquête Congo Hold Up. Je précise pour nos auditeurs que vous étiez ce matin dans Appel sur l'actualité pour répondre justement aux questions des auditeurs sur le sujet. C'est une émission très riche à réécouter en podcast sur le site de RFI ou à regarder en vidéo sur la page Facebook d'Appel sur l'actualité. Alors Sonia, vous allez nous aider à comprendre comment est-ce qu'on peut prendre 138 millions de dollars à un État. Mais d'abord, expliquez-nous tout cet argent, d'où est-ce qu'il vient et à quoi il devait servir initialement?
Alors, en théorie, c'est de l'argent évidemment du trésor public. Il y a un seul compte au trésor, c'est là où les recettes de l'État arrivent. Et à partir de là, elles sont dispatchées entre des institutions. Donc on a vu que certaines institutions, comme notamment la commission électorale, ou le fonds de réhabilitation des routes, ou la société de commerce de transport et des ports qui gère les ports publics, que beaucoup de ces institutions ont été ponctionnées de petites sommes, c'est quand même des millions, donc c'est pas, mais par petites sommes. Et puis, on a deux autres institutions qui vont fournir l'essentiel des fonds. D'un côté, la Banque centrale du Congo, donc, qui est censée normalement réguler les banques, empêcher les détournements, c'est justement son travail d'être le gendarme. Et puis, de l'autre côté, la Gécamines, donc la compagnie minière d'État, qui va régulièrement, en fait, fournir des fonds pour des raisons qu'on n'explique pas, ou en tout cas on n'a pas les explications dans ces données, donc dans ces 3 500 000 documents bancaires auxquels on a eu accès. On n'a pas eu la réponse de savoir pourquoi est-ce que la Gécamines faisait tous ces transferts, surtout que les libellés, la manière dont c'est présenté les opérations, ce n'est pas des opérations classiques. On n'a pas l'impression d'avoir des opérations libellées avec des ordres
alors justement,
clairs de la Banque centrale.
C'est ça qui est intéressant dans cette enquête, c'est qu'on parle quand même de millions de dollars, vous le disiez. Vous avez réussi à identifier en fait plusieurs méthodes de détournement de ces fonds et de dissimulation de ces détournements?
Voilà, on a observé, et puis alors il y a eu beaucoup d'imagination quand même dans cette banque, la BGFI Bank, d'où proviennent ces documents. Il y a beaucoup d'imagination parce que on observe qu'il y a par exemple des ponctions qui sont opérées sur des institutions comme la CENI à travers plusieurs méthodes. D'abord en faisant croire que c'était des frais bancaires. Donc par exemple, vous avez un prêt en banque, on imagine. Là, vous avez toute une série de frais qui sont imputés sur le fait que vous ayez un prêt. Et oui, évidemment, vous allez devoir le rembourser. Eh bien, au milieu de tous ces frais, vous avez un frais qui se glisse, une commission de notification. Ça ressemble un peu aux autres libellés, donc vous ne faites pas attention. C'est quand même un million pour la CENI.
Par exemple, sur 25 millions, il y a un petit million qui va disparaître.
Voilà, et qui disparaît avec un montant équivalent à une autre transaction, enfin un frais bancaire de la BGFI. Donc forcément, voilà, c'est un peu maquillé, mais bon, ça aurait pu être vu peut-être quand même. Et on a aussi des détournements qui sont faits à travers des opérations de change. Donc là, vous avez 25 millions, vous voulez les changer en euros et vous les avez en francs congolais. Ben, on vous les fait passer par un compte pour les transférer en dollars, puis après en euros. Au milieu de tout ça, vous avez des frais. Et à ce moment-là, là aussi, on va vous prendre presque un million au passage pour la société qui appartient au président Kabila, ou dont le président Kabila est le principal actionnaire, Port de Fischer. Donc on a vu des méthodes comme ça. Et puis, bon, il y a évidemment des virements directs où on ne se donne même pas la peine de notifier. On a des virements alimentation de notre compte pour un compte qui appartient à la famille du président et pour de l'argent qui provient du trésor public. Donc voilà, on a des espèces de libellés de type nivellement, où on parle de nivellement. Nivellement, c'est pareil, c'est l'idée que ça se passe entre deux comptes qui appartiennent au même client, comme si les comptes de l'État et les comptes de la famille seraient un peu mélangés. Et puis après, on a des procédures beaucoup plus compliquées, en fait, qui passent par des prêts, où on vous invente une créance de l'État. Ça, c'est un peu le principe de la société d'égal d'importation de poissons et de viande, où on va transférer une créance d'État d'une société privée à une autre société privée, et ensuite on va faire des remboursements, cacher un peu d'où viennent les fonds, créer un compte séquestre et puis finalement retirer de l'argent.
Alors on comprend bien, Sonia, en vous écoutant, que la BGFI RDC a joué un rôle central dans ces détournements. Quels sont les liens entre cette banque et le clan Kabila ?
Alors, le premier lien qui est quand même fort, c'est que en ouvrant cette filiale, le groupe BGFI a accordé 40% des parts de cette banque au Congo à la sœur de Joseph Kabila. Donc ça, c'est la première chose, gratuitement, parce qu'on a découvert après qu'on lui réclamait l'argent quand les relations commençaient à mal tourner entre le clan Kabila et la BGFI. Et puis en 2013, et ça c'est quand même un moment important, parce que c'est là où on va voir une accélération des détournements, on a comme directeur général qui arrive à la BGFI, Francis Selemani Touélé, qui est donc le frère adoptif du président Kabila. Et à ce moment-là, on va voir presque la BGFI qui change de nature. Ça va prendre vraiment des proportions où il va y avoir maquillage des comptes, forçage des opérations, voilà, toute une série de procédures qui ne sont pas orthodoxes pour une banque.
Et effectivement, à ce sujet, Francis Selemani, donc, qui apparaît comme un des personnages centraux dans ces détournements, à ce sujet, je vous propose d'écouter Michèle Kendler-Kretsch. Elle est chercheuse pour l'ONG The Sentry, qui a donc collaboré à l'enquête. Elle nous raconte comment Francis Selemani a utilisé l'argent détourné.
Nous nous sommes aperçus qu'à travers différentes sociétés contrôlées par Selemani, celui-ci avait acheté de nombreuses propriétés privées pour un montant total de 6,6 millions de dollars. Les premiers achats ont lieu en 2015, une résidence aux États-Unis, plusieurs maisons en Afrique du Sud, mais c'est vraiment en 2018 où les dépenses se sont multipliées. Cela correspond au moment où l'on demande à Selemani de quitter la direction de la banque BGFI RDC et où la présidence de son frère, Joseph Kabila, touche à sa fin. Au total, 17 propriétés qui représentent des millions de dollars.
Voilà une illustration de la façon dont cet argent a pu être utilisé. Sonia Rollet, dans tous les pays, vous parliez tout à l'heure de la banque centrale congolaise, dans tous les pays, les banques centrales sont plutôt réputées pour être des garantes de la stabilité monétaire. On voit bien en RDC que la BCC a complètement failli dans cette mission. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ?
Alors, justement, c'est pour ça qu'on parle de premier cercle, par exemple, nous, de Joseph Kabila. C'est vrai que quand on voit la manière dont se sont comportés ces acteurs qui étaient des animateurs d'institutions, donc qui avaient des rôles bien définis. La Banque centrale, c'est le gendarme du secteur bancaire. C'est elle qui devait imposer à la BGFI de respecter certaines règles. C'est non seulement elle ne le fait pas, mais elle devient un instrument de détournement, notamment à travers la création d'un compte à la BGFI qui s'appelle BCC Équipement et qui va servir de sorte de caisse noire donc pour le régime, et où il y a beaucoup d'argent détourné en fait, qui va passer à travers ce fonds qui était censé, enfin c'est ce qu'on a l'impression à travers le libellé, fournir des équipements. Et donc c'est vrai que ça ne peut pas se passer, cette situation-là, sans qu'il y ait des complicités au plus haut niveau de l'État. Donc il y a un certain nombre de personnes qui signent des actes à la Banque centrale pour permettre les décaissements de fonds, y compris les décaissements liquides, ce qui ne devrait pas être permis sur des fonds publics qui proviennent du Trésor public. On ne devrait pas pouvoir arriver à la Banque centrale et puis retirer 5 millions comme ça. C'est ce qui s'est fait quand même au Congo. On sait aussi qu'il y a un certain nombre d'avances, par exemple de la GECAMINE, et on en voit des exemples qui étaient annoncés comme des avances d'impôts qui se retrouvent sur les comptes de Sudoil, d'une société du clan. Donc ça demande un certain nombre de complicités, et notamment
et d'intermédiaires via effectivement toutes ces sociétés écrans qui sont impliquées dans cette affaire. Alors il y a quand même plusieurs cabinets d'audit qui sont passés par là et qui, a priori, se sont quand même rendus compte qu'il y avait des petits soucis dans la gestion de cet argent public. Ces irrégularités, une fois détectées, qu'est-ce qu'il se passe ensuite du côté de ces cabinets d'audit ? Est-ce qu'ils ont les moyens de faire quelque chose pour que ces détournements ne se reproduisent plus ?
Alors, on peut dire que c'est vrai qu'il y a eu des audits, il y en a eu en interne à la BGFI, déjà tous les mois, pratiquement, on a des rapports qui nous montraient qu'il y avait des problèmes ou des irrégularités, ou les services de conformité pointaient, qui est le service un peu de gendarme à l'intérieur d'une banque, pointaient ça. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne voit jamais de conséquences. On voit peut-être quelqu'un qui va écrire un mail à quelqu'un pour lui dire « on te donnera les explications plus tard », c'est un peu le maximum de ce qu'on a comme explication, mais on ne voit jamais de conséquences pour des choses qui sont très graves, où on explique même parfois que ça met en danger la survie de la banque, de cette filiale, donc de la BGFI ou du groupe BGFI en RDC. Donc des situations extrêmement graves en interne. Bon, on a vu que quand même des gens sont partis, on l'a vu avec Jean-Jacques Lumumba qui lui est parti en 2016.
Lanceur d'alerte, effectivement.
Voilà, qui était lanceur d'alerte, et des gens qui n'ont pas supporté ça. Il y a eu des vagues de départ après les premières révélations aussi de ce lanceur d'alerte, on le sait bien. Donc il y a eu cette situation d'interne. Il y a évidemment ceux qui contrôlent les comptes de la banque. Là aussi, il y avait de quoi se poser des questions sur, au vu des déposants.
C'est-à-dire que ces personnes aussi ont participé à des opérations de dissimulation de ce qu'il se passait ?
On ne peut pas savoir. Il y a quand même des éléments d'information dans ces rapports. On les utilise quand même de temps en temps dans nos articles de dire tiens, ils ont pointé ça, ils ont pointé ça. Mais est-ce qu'ils sont allés suffisamment loin dans l'alerte ? Et là, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose de leak en leak. À chaque fois qu'il y a une fuite de données bancaires ou d'autres données confidentielles, on se dit mais que font ces grands cabinets d'audit ? Comment ils peuvent passer à côté du fait des opérations qui sont irrégulières ou illégales, qui sont faites par le clan Dos Santos, par exemple, quand on avait fait les Luanda Leaks, on s'était rendu compte.
Oui. En Angola.
Voilà, on avait cité un certain nombre de cabinets d'audit. Là encore, on se retrouve face à des cabinets d'audit. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Souvent, les réponses qu'ils nous font, c'est simplement de dire, bah, nous, on a transmis, on a dit. Il y a ce que vous avez lu, il y a les messages qu'on a pu faire, etc. Voir, on arrête avec ce client, ça nous est arrivé aussi d'avoir des réponses comme ça. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que ce système est complètement perméable et on s'en rend compte aussi avec les banques correspondantes. Et c'est presque le pire. Quand vous savez que c'est des grandes banques occidentales comme Commerzbank, c'est une banque où régulièrement, on va la voir. On va voir aussi la BGFI à Paris. On va quand même voir qu'ils essaient d'endiguer un peu.
Et alors, qu'est-ce qu'ils vous répondent quand vous allez les voir ?
Mais qu'ils font ce qu'ils essaient de faire ce qu'ils peuvent, qu'ils ont pris des mesures, qu'ils respectent toutes les règles. Alors que ce n'est pas vrai, alors que c'est vraiment des millions qui arrivent à partir. Souvent sur des fausses factures, on se demande un peu, mais qui peut croire en ces factures ? Alors des fois, ils posent aussi des bonnes questions. Hein. On voit que la BGFI à Paris, par exemple, l'antenne à Paris, le service de conformité, lutte un peu en interne pour empêcher des paiements, parce que évidemment, c'est la première porte de sortie de cet argent. Ça devrait être Paris, quoi. Et on va passer sur d'autres banques, mais on en arrive jusqu'à Citibank pour certaines opérations où il n'y a pas eu des contrôles qui ont été nécessaires, qui ont été faits, quoi.
Sonia Rollet, aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui sont impliquées dans tous ces détournements, directement ou peut-être aussi indirectement ?
Alors, on n'en a aucune idée. C'est vrai que nous, on en a choisi quelques-uns. On a décidé d'un petit cercle de personnes, soit parce qu'ils étaient membres de famille, soit parce que c'était des hommes d'affaires qui bénéficiaient énormément et où les intérêts entre la famille présidentielle et leurs intérêts se confondent. C'est-à-dire, ils vont créer une société qui va être reprise par la famille présidentielle ou, inversement, on voit que l'argent circule sans motif apparent entre les deux. Donc, on sent que c'est un même ensemble. Mais c'est très peu de gens. En fait, là, sur les 138 millions, on a les gens qu'on cite, c'est très peu de gens. À côté de la réalité de ce qu'on trouve, en fait, comme information dans ces données, nous, on est quand même obligé un peu de simplifier ou de
vulgariser, en voilà, tout cas, pour que vulgariser. Ce soit accessible.
Et on ne peut pas rentrer dans tous les détails, bien qu'on en ait fait quand même, on soit rentré dans beaucoup de détails.
Effectivement, c'est un travail colossal que vous avez réalisé. Alors, la formation politique de Joseph Kabila a réagi. Le PPRD qualifie cette enquête Congo Hold Up d'attaque politique contre l'ancien chef de l'État. Je vous propose qu'on écoute Patrick Nkanga, donc c'est donc le rapporteur du bureau politique du PPRD.
C'est une enquête qui a été faite par un groupe de médias supposément de manière indépendante, mais ce n'est pas une instance judiciaire où on va venir contester, où on va venir recuser. Nous estimons qu'il y a des allégations et l'état de droit, ce ne sont pas des suppositions, ce sont des faits. Et ce n'est pas à eux d'établir la vérité parce qu'ils ne sont pas dépositaires de la vérité. La présomption d'innocence est un principe sacro-saint en droit, mais vouloir à tout prix assembler des gens, adjoindre à un nom, le nom Kabila, le clan Kabila, comme dire qu'il y avait une espèce de mafia qui gérait ce pays pendant 18 ans, en omettant tous les efforts entrepris pour sa refondation, nous avons trouvé cela comme étant une visée politicienne clairement exprimée.
Voilà, une visée politicienne clairement exprimée. Sonia Rollet, comment est-ce que vous réagissez à ces propos ?
Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette fuite de documents, elle couvre 10 ans. Ces 10 ans, les données n'ont pas choisi les gens. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il n'y a pas de volonté de trouver ou de chercher quelqu'un en particulier. Il y a ce que les chiffres ont donné, comme les 138 millions, c'est pas quelque chose où on les a inventés. Les sociétés qu'on pointe, c'était aussi celles qui étaient pointées dans ces rapports d'audit, justement, en disant c'était les gros déposants, les gens qui commettent beaucoup d'infractions ou pour lesquels on n'a pas beaucoup d'informations sur les sociétés. On s'est intéressé à tout ça, on a été comme les auditeurs, sauf que quelque part on a eu accès à plus d'informations peut-être que les auditeurs des cabinets d'audit. Mais en tout cas, il y a pas dans ces leaks là, c'est pas un leak Kabila, c'est
voilà, un leak. Il n'y a pas de volonté de nuire à un clan, à une famille.
Non, c'est vraiment
10 ans,
une dizaine d'années d'informations. Après, dans ces informations-là, on peut vous dire, oui, on a fait des choix d'institutions. On n'a pas fait toutes les institutions congolaises dont on avait les comptes. On a peut-être
choisi. Ce qui veut dire qu'il y en a peut-être aussi d'autres qui pourraient être impliqués dans ces détournements.
C'est-à-dire qu'on n'a pas fini 3,5 millions de documents. On ne pourra pas finir même. C'est vrai, tout le monde nous le dit, en 6 mois, vous n'avez pas pu. Non, on n'a pas pu. On vous rassure. Et si on trouve d'autres choses, on vous en reparlera. Mais pour l'instant, on va déjà terminer cette séquence-là parce que ça a été beaucoup de travail. Mais c'est vrai que, voilà, quoi. C'est quelque chose où il faut comprendre que c'est plus parce que cette banque avait des liens avec la famille Kabila qu'on retrouve peut-être les affaires de l'ancienne famille présidentielle plutôt que le contraire. Si ça avait été une autre famille qui était à la tête de cette banque, on aurait eu forcément un résultat différent.
Et justement, Sonia, tous ces acteurs que vous mettez en accusation, en tout cas que vous mettez devant les faits que vous avez réussi à documenter, alors qu'il s'agisse d'individus ou de sociétés, sociétés écrans notamment, est-ce qu'ils vous ont répondu ?
Alors, on a envoyé des centaines de lettres, pas seulement au Congo, mais aussi dans le monde entier. C'est une phase du travail. Ça fait un mois qu'on a fait ça. Donc c'est, pour toutes ces personnes-là, ce n'est pas nouveau. Ça fait même plus d'un mois qu'on les a contactés parce qu'on les en contacte en avance. Des fois, on a 50 questions. Des fois, on en a 300. Il faut leur laisser le temps d'avoir les moyens de répondre à toutes ces choses-là. Malheureusement, la famille du président Kabila n'a pas souhaité répondre et le président Kabila lui-même n'a pas souhaité répondre. Ils nous ont expliqué qu'ils attendaient de voir en off, comme ça, qu'ils nous attendaient de voir un peu ce qu'allait dire l'enquête et qu'ils réagiraient certainement après, donc on attend effectivement ça. La BGFI n'a pas réagi sur le coup. Maintenant, depuis qu'on a sorti l'enquête, il y a des employés, on est contactés, qui commencent à nous donner des explications, mais le siège en lui-même, sur le coup, n'avait pas réagi. Il vient tout juste de faire une réaction que vous entendrez tout à l'heure. Et puis c'est vrai qu'il y a ces hommes d'affaires, et là, on voit, il y a ceux qui ont collaboré, il y en a qui ont vraiment collaboré avec l'enquête, qui ont essayé de fournir beaucoup d'explications, et puis il y a quand même beaucoup, certains des acteurs clés, mais vraiment des acteurs clés qu'on cite beaucoup, comme par exemple l'ancien gouverneur de la Banque Centrale, comme l'actuel patron de la GKMIN, comme certains hommes d'affaires dont on parle souvent, Alain Ouane et Marc Piedboeuf, qui sont vraiment deux hommes d'affaires dont les intérêts sont très très liés à la famille présidentielle. Ils ne nous ont pas donné de réponse. On a repris un peu les réponses qu'ils donnaient auparavant parce que ce n'est pas la première fois qu'ils étaient épinglés. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose. On les attend toujours. On espère toujours qu'ils vont nous apporter ces réponses parce que, voilà, nous, on a présenté ce qu'on avait comme données.
Le fruit de votre travail, ouais. Effectivement. Pour conclure cette émission, Sonia, quelles peuvent être les suites sur le plan judiciaire de vos révélations ?
Alors, on a appris par la voix de plusieurs ministres que la ministre de la Justice avait saisi le parquet pour lui demander d'être vigilant sur ces affaires. On sait qu'il y a un dossier qui est déjà ouvert pour Egal, donc cette société d'importation de viande et de poissons, et les 43 millions, et nous on parle de 34 millions supplémentaires de fonds suspects. Donc il y a cette affaire-là, mais pour l'instant il n'y a pas de suite. On attendait aussi le remboursement des 43 millions par la banque, on n'a pas eu de suite. Et puis on attend de voir aussi ce qui va se passer. C'est vrai que l'avantage en fait quand même de ce travail, enfin en tout cas c'est ce qu'on pense, c'est que c'est suffisamment précis au niveau des dates, des montants et des comptes pour que finalement on puisse facilement retrouver les transactions dont on parle. On a publié des documents pour qu'ils soient aussi disponibles et pour pas qu'on puisse nous dire d'où vous sortez ces informations.
Voilà, on ne sait pas d'où ça vient. Au moins, on sait, et tout est en version vulgarisée, bien sûr, sur le site de RFI, rfi.fr. Merci beaucoup, Sonia Rollet, d'avoir été avec nous pour tous ces éclairages passionnants. Je rappelle que vous êtes journaliste au service Afrique de RFI, spécialiste de la RDC, et vous avez participé à cette vaste enquête Congo Hold Up. Très belle soirée sur RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré.